Chelou.
Et dans cette édition, on vous parle de ce recours déposé par les autonomistes contre deux textes adoptés par la majorité à l'Assemblée. On s'intéresse aussi à ces défaillances au port de pêche. Le journal avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal à Paris, pas de changement au ministère des Outre-mer pour le moment.
Oui, sans surprise, Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement, reste ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lui qui est en poste au ministère de l'Intérieur depuis 3 ans et demi. L'annonce a été faite ce jeudi par l'Élysée. En gardant la tutelle des Outre-mer, Gérald Darmanin pourra poursuivre sereinement les discussions politiques sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et concernant justement le Caillou, son rival Bruno Le Maire, a de son côté gardé l'économie, les finances, la souveraineté énergétique et numérique. De quoi poursuivre et conclure le pacte sur le nickel calédonien qu'il avait proposé en décembre dernier. Au total, 11 ministres de plein exercice et 3 ministres délégués ont été nommés aujourd'hui. Pour ce qui est du ministère délégué aux Outre-mer, il faudra attendre d'ici le début de la semaine prochaine pour savoir si Philippe Vigier demeure à son poste ou au contraire si un ou une nouveau ministre délégué est nommé.
Politique toujours, mais à Tahiti, les partis autonomistes ont déposé 2 recours en Conseil d'État.
Oui, ces recours du Tapura et de Aereia Polynesia concernent 2 textes adoptés lors de la dernière séance de la session budgétaire. Le premier, déposé le 29 décembre, porte sur la loi fiscale que les deux partis estiment anti-économique et antisociale sur le fond et irrégulière sur la forme. Lors de son premier passage en commission le 21 novembre, le texte avait été vivement critiqué tant par l'opposition que par la majorité Tavigny elle-même, puis amendé. On écoute Nui Olorei, représentant Aereia Polynesia, il nous parle de ce recours déposé.
Sur la loi fiscale, qui, comme on l'a indiqué à plusieurs reprises, est anti-économique, anti-sociale, qui présente de nombreuses dispositions qui créent une inéquité fiscale, mais surtout, la procédure législative n'a pas du tout été respectée. Les amendements qui ont été votés ont été retirés du texte, ont été ensuite redéposés par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire, et donc nous avons décidé de déposer ce recours.
Voilà pour le premier recours. Le second lui a été déposé le 9 janvier. Il concerne le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée et pour notamment au sujet de la fraîchement créée commission spéciale sur la décolonisation qui permet notamment à son président Tony Géros de conduire les travaux à huis clos et de restreindre la diffusion des comptes rendus à ses seuls membres. Les élus de l'opposition y voient aussi une dépense publique pour une cause qui n'est pas une cause publique mais une cause politique, comme l'explique l'élu Tapura Tepuara Oriteritai.
Si concrètement cette commission de décolonisation n'a pas tout à fait les mêmes moyens au niveau des collaborateurs surtout. Par contre, cette commission peut avoir recours à des prestataires, même des prestataires étrangers. Donc, on peut faire venir des Fidjiens, des Tongiens. C'est ce qui a déjà été fait lorsqu'il y a eu la journée de l'ONU qui a été célébrée ici. Et puis, cette commission bénéficie de l'assistance des fonctionnaires de l'Assemblée de Polynésie. Donc, c'est quand même des deniers publics pour une cause qui n'est pas une cause publique, dans le sens où c'est surtout une cause politique du Tavigny.
Voilà, ces 2 recours sont désormais sur le bureau du Conseil d'État, des propos recueillis par Caroline Perdry.
Ça craque dans l'administration.
Oui, la directrice générale des ressources humaines, Marine Noguet, a démissionné et quittera son poste le 8 février prochain. Elle avait passé 4 ans aux ressources humaines de la CPS avant de prendre la tête de la DGRH en août 2021. Motif de sa démission, le manque d'avancée sur le nouveau schéma directeur qu'elle avait élaboré et qu'elle estime toujours indispensable pour rendre le service public attrayant et efficace. Et ce n'est pas le seul revers affligé à sa ministre de tutelle, Vanina Krolas, qui est en charge de la fonction publique, puisque la directrice et la chef de cabinet de la ministre ont elles aussi démissionné.
Social, on revient sur les négociations toujours en cours à Gaz de Tahiti.
Grève du gaz ou pas ? Eh bien, à l'heure actuelle, aucun accord n'a été signé entre la CSIP, l'Union des hydrocarbures et la société Gaz de Tahiti, qui est sous le coup d'un préavis depuis vendredi dernier. Alors hier, les parties prenantes se sont retrouvées dans les locaux de la société pour un premier échange qui s'est déroulé de manière assez cordiale. Un nouvel échange a lieu en ce moment. Des discussions qui interviennent après la surprise du préavis tombé vendredi dernier. Surprise, oui, à en croire Laura Siou, chargée des ressources humaines chez Gaz de Tahiti.
Le dépôt de préavis vendredi dernier nous a énormément surpris puisqu'on sortait en fait d'une période de fête apaisée. On a pendant toute l'année 2023 tenu des réunions mensuelles avec le personnel. C'était très surprenant. On est disposé à discuter, également dans le dialogue. Et à l'écoute, à la recherche d'éléments de compréhension également.
Et de son côté, Judith Siou, la secrétaire générale du groupe Gaz de Tahiti, est du même avis. Elle précise qu'une grève, c'est avant tout une rupture de dialogue, un désaccord sur des points qui ont forcément été évoqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui selon elle.
Et parmi les 12 doléances du préavis, on retrouve également des points concernant la convention collective gazière.
Oui, la dernière version de cette convention date de 2014. La direction a expliqué qu'elle refuse de les négocier sous la pression, en ajoutant qu'à l'époque de la dernière révision, il s'agissait d'un accord global où chacun avait mis du sien. Alors que là, je cite, ils veulent juste augmenter les primes. Fin de citation. Joint par téléphone après s'être éclipsé en évitant les médias dès la fin des débats hier, le délégué CSIP se voulait rassurant, mais attendait la fin des négociations qui ont lieu en ce moment même pour se positionner. Dans tous les cas, les responsables syndicaux se défendent de vouloir apporter leur soutien aux travailleurs des hydrocarbures, dont la grève dure depuis bientôt un mois. Et justement, de ce côté-là, si certaines sociétés travaillent en ce moment sur des points de revendication spécifiques à leur entreprise, aucune réunion globale ne semble encore à l'ordre du jour pour sortir du conflit, un conflit qui commence à inquiéter les îles éloignées.
La CTC a le port de pêche dans son viseur.
Oui, la Chambre territoriale des comptes qui publie son rapport sur la société de pêche du port de Papeete, la S3P, sur la période 2017-2021. Gouvernance, situation financière, modalités d'exploitation et perspectives d'avenir sont ainsi passées au crible. Et plusieurs pages de ce rapport épinglent des irrégularités constatées autour de la vente de glace qui représente près de 30% du chiffre d'affaires de la S3P. Alors en 2022, une enquête avait permis de mettre en avant que le nombre de factures quotidiennes était bien inférieur au nombre de clients. Ils avaient été comptabilisés lors d'un contrôle par vidéosurveillance. Et ainsi, sur 189 clients recensés durant 11 journées de travail, seules 101 factures ont été émises, soit 53% de taux de facturation. La S3P n'a pas toutefois été en mesure de communiquer le montant des pertes estimées, c'est ce qu'indique le rapport de la CTC. La direction du port de pêche a donc reconnu que soit les agents ne facturaient pas l'ensemble des clients, soit les fonds en question avaient été détournés. La direction, qui ne disposait que de faisceaux d'indices mais pas de preuves à l'époque, a donc ainsi et deux employés du port depuis 20 ans à démissionner.
Mais ce n'est pas tout.
Et oui, la Chambre territoriale des comptes émet également une réserve concernant l'ajout en 2021 d'un nouveau quai de pêche de 40 mètres de long, dit quai de la Papeava, et de deux parcelles à la convention initiale passée avec le port autonome, ce qui n'avait pas été inclus dans les comptes de l'année, ni reflété dans le montant du loyer. C'est sur ce quai, dont elle a l'usage exclusif, que la société Ocean Products Tahiti débarque son poisson à proximité de ses nouveaux locaux. La société du port de pêche n'ayant pas les moyens humains d'y effectuer les opérations de débarquement et de pesée, l'entreprise le fait par ses propres moyens en bénéficiant donc d'un tarif inférieur à celui appliqué aux autres armements et donc en contradiction avec le règlement du marché d'intérêt territorial. Bref, un rapport très fourni que vous pouvez retrouver sur notre site radio1.pf et à l'issue duquel la CTC formule 5 recommandations pour la société du port de pêche de Tahiti. Un suivi rigoureux du fichier clientèle, le développement de nouvelles activités pour augmenter le chiffre d'affaires, la maîtrise des coûts de fonctionnement, la mise en place de procédures de contrôle interne systématique et enfin la régularisation dès à présent des conditions d'occupation et d'exploitation de la zone de Papeava.
Foncier, désormais, la commune de Faha souhaite convertir son territoire en ZIF.
Oui, entendez par là une zone d'intervention foncière. Il s'agit en fait d'une procédure qui vise à offrir aux mairies la possibilité de réaménager des zones en instaurant un droit de préemption sur les ventes immobilières. La commune aurait ainsi une vue sur toutes les tractations en cours. Écoutez.
C'est bien dans un cadre d'aménagement territoire, voire même pour les futures zones d'équipement, voire même par rapport à des emprises réservées pour les futurs équipements dans l'intérêt général. Cette procédure permet aussi à la commune de voir un peu tout ce qui est aspect foncier, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. On n'est pas au courant des tractations entre propriétaires et futurs acheteurs pour des biens. Et nous, ça nous peine un peu parce qu'on rate beaucoup d'opportunités.
Et cette procédure temporaire serait ainsi mise en place en attendant que FA ait son propre PGA, qui lui permettrait ainsi d'avoir une vision générale de son territoire. Mais avant, elle doit consulter ses administrés et ouvre donc du 22 janvier au 23 février une enquête publique. Le dossier sera consultable au guichet du service formalité de l'hôtel de ville.
Un tour à Bora Bora où 230 emplois sont à pourvoir.
Et oui, à quelques mois de sa réouverture sous l'enseigne Westin, l'ancien hôtel Méridien lance sa phase de recrutement. Après travaux, la structure, qui accueillera surtout une clientèle américaine, proposera 142 bungalows à ses clients. Et son ouverture est prévue vers la mi-2024. Et donc, pour assurer les prestations, la direction recherche 230 personnes, dont au moins 70% de locaux. Ce sont ainsi près de 40 postes supplémentaires que sous l'ancienne dénomination. Et si une expérience compétences dans le domaine du tourisme est évidemment appréciée, elle ne reste pas un critère déterminant. Comme nous l'expliquait Émilie Maubois, elle est responsable des ressources humaines.
Notre objectif aussi, c'est de pouvoir former les collaborateurs au métier de l'hôtellerie. Donc si on voit qu'il y a une appétence, une réelle motivation de la part du candidat et qu'il se démarque au niveau de son aisance, de son comportement, des personnes souriantes, bienveillantes, qui puissent faire plaisir à notre clientèle. L'emploi local, c'est très important. Là où on peut avoir une difficulté, c'est que la quasi-totalité de nos emplois demande tout de même d'avoir une bonne connaissance de l'anglais.
Et tous les métiers de l'hôtellerie sont concernés, du service restauration à la maintenance, en passant par la cuisine, le spa, le housekeeping et la réception. Et pour trouver ses futurs collaborateurs, un job dating est donc organisé à Bora le mardi 16 janvier de 10h à 15h30. C'est à la salle de réunion de Veitapé. Un autre pour éventuellement avoir lieu à Tahiti par la suite.
Retour à Tahiti avec ses modifications de circulation sous le pont de la Punaru.
Oui, le pont fait peau neuve avec des travaux de peinture qui ont débuté depuis octobre sans incidence sur la circulation jusque-là. Mais attention, ça va changer à partir de lundi puisque les travaux vont entrer dans une nouvelle phase, celle du remplacement des appuis du pont. En conséquence, des modifications de circulation sont à prévoir sous l'ouvrage, à savoir au niveau du rond-point où la circulation va être réduite à une voie. D'abord côté Papeete la semaine prochaine, puis côté Paea la semaine suivante.
Et d'autres modifications de circulation sont annoncées, mais cette fois sur la côte est.
Oui, au niveau du PK43 à Hitia, où souvenez-vous, un éboulement avait coupé la route en juillet. Depuis, les travaux de sécurisation du talus vont bon train. Et comme entre octobre et début décembre, la route va de nouveau être totalement coupée à certains horaires de la journée. Et attention, c'est à compter de lundi. Alors hors vacances scolaires, la route sera fermée de 8h30 à 15h30 les lundis, mardis et jeudis. Et de 8h30 à 11h les mercredis et vendredis. Pendant les congés scolaires, la route sera fermée, attention, tous les jours de la semaine de 8h30 à 15h30. En dehors de ces plages horaires ainsi que les week-ends et les jours fériés, la route est utilisable en mode alterné comme cela est actuellement le cas. Des modifications qui vont durer jusqu'au 15 mars.
Un mot de sport avec Ira Terry Natorofa qui est en train de vivre quelque chose de fou.
Oui, c'est ce que nous dit l'entraîneur de l'équipe de France de surf qui a été désigné hier par Paris 2024 comme étant le capitaine du relais olympique lors du passage de la flamme au Fénois. Ce sera le 13 juin prochain.
Là, de tenir la flamme, c'est encore quelque chose de fou. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je suis quand même assez ému. Pour le moment, j'ai pas encore eu d'informations réellement sur l'organisation de comment gérer la flamme. Et